Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le casse-tête du protocole sanitaire à l'école. Le premier syndicat du primaire appelle désormais à une journée de grève. Dans ce journal également, le témoignage bouleversant du père de la petite Maëlys, 3 semaines avant l'ouverture du procès de son meurtrier présumé. Et puis un nouveau rebondissement, encore un, dans l'affaire Jubilard.
Les deux sujets du jour après le journal, les Français d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit vouloir emmerder les non-vaccinés. D'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est le résultat de notre sondage BVA. Et à 12h50, la galette des rois. Comment bien la choisir? À quel prix?
Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Que préférez-vous lors de l'épiphanie? Brioche ou frangipane? Eh bien, c'est une victoire quasiment KO de la frangipane à 73%. La météo du jour, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour.
Bonjour.
Si j'ai bien compris, il va falloir en profiter.
Oui, on a du soleil encore sur les bords de la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes et du Massif central. Passé la drage du matin, un beau soleil également entre le bassin parisien, la Picardie, la Normandie, la Bretagne. Ça glisse jusqu'à la Vendée. On a donc cette dégradation qui va des Pyrénées au Grand Est, qui va peu à peu quitter le pays, et une nouvelle dégradation qui arrivera ce soir par le Nord-Ouest. Et là, ça va tomber assez dru avec en plus de fortes rafales de vent. Côté température, 4 degrés à Lyon au meilleur de l'après-midi, 5 à Metz, 6 à Reims, 8 à Paris, 9 à Toulouse, 11 degrés pour Nantes et 13 à Nice.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette colère qui monte dans les écoles alors que le protocole sanitaire a encore été corrigé ces dernières heures. Le syndicat d'enseignants SNUIPP, FSU appelle à une grève, ce sera pour jeudi. Ras-le-bol aussi du côté des parents, la principale fédération de parents d'élèves organisait d'ailleurs une manifestation ce matin à Villepinte.
On ne sait plus quand envoyer l'enfant à l'école, quand le garder, quand ne pas le garder, quand le tester, quand ne pas le tester, quand est-ce qu'il aura cours, quand est-ce qu'il n'aura pas cours. Ça devient l'école à la carte, à la commande. Quand ma fille m'a dit je suis cas contact, je lui ai dit attends, t'es pas vaccinée, il faut que je vois comment tu vas. Attends, je relis le protocole. Non, et c'est toujours les parents qui prennent. J'en ai 3, donc il faut bien s'en occuper.
On nous appelle tous les 4 matins, il faut aller faire tester nos enfants. Alors oui, d'accord, on va tester nos enfants, c'est pas ça le souci. Mais c'est qu'il n'y a rien qui suit derrière. On n'a pas d'autotest, les pharmacies sont fermées, les résultats, on ne les a pas de suite. C'est facile de balancer des lois comme ça, de mettre des protocoles. Il faut se mettre à la place des personnes, des parents, un ras-le-bol.
Ras-le-bol des parents d'élèves au micro RTL d'Aurélia Valarié. Désormais, la règle pour un cas contact à l'école, on le rappelle, ce n'est pas plus de 3 tests en 7 jours. 1 le jour J, puis 2 autres, 2 et 4 jours plus tard. Ça reste compliqué, on en convient. Voyons d'ailleurs comment ça se passe chez nos voisins en Allemagne. Là-bas, les tests ont lieu à l'école, en classe même, et ce depuis le printemps dernier, Violette Bonnebas.
C'est devenu un rituel pour les élèves allemands. En classe, avant d'ouvrir ses cahiers, chacun doit réaliser un autotest sous la surveillance de l'enseignant. Les écoles disposent de kits spéciaux. Pas besoin d'enfoncer le coton-tige profondément dans le nez, 1 cm ou 2 suffisent. Lorsqu'un cas positif est détecté, il est d'abord confirmé en laboratoire par un test PCR, puis l'enfant est placé à l'isolement, ainsi que ses voisins de table et sa famille. En Allemagne, ces autotests sont présentés comme la seule façon d'éviter les fermetures de classe. Ils sont obligatoires dès le CP, y compris pour les enseignants vaccinés ou non. Depuis la rentrée, la fréquence des tests a encore augmenté, passant de 2 à 3, voire 5 fois par semaine selon les régions. Les syndicats d'enseignants, eux, sont favorables à la mesure, mais réclament la présence d'un professionnel de santé lors des tests, pour l'instant en vain.
Violette Bonnebas à Berlin pour RTL. Sur le plan sanitaire à présent, Santé publique France s'inquiète ce midi. Partout, le nombre de cas progresse, on le vérifie chaque jour. Mais fait nouveau, à Gatlandais, les plus âgés sont désormais eux aussi touchés par Omicron.
Oui, les taux d'incidence explosent dans toutes les tranches d'âge, donc y compris chez les plus de 70 ans. Si l'on regarde dans le détail, on constate que c'est d'ailleurs dans la tranche d'âge des 80 à 89 ans que la hausse des contaminations est la plus forte. Plus 210 10% sur une semaine, suivi ensuite de la tranche des 70-79 ans, marquée, elle, par 200% de cas en plus sur 7 jours. Cette forte circulation du virus inquiète donc Santé publique France, qui redoute dans les prochaines semaines une hausse des hospitalisations de ces publics plus fragiles. Ce n'est pas le cas pour le moment dans les services de réanimation. On constate plutôt une stagnation des admissions, voire une légère baisse. À voir si cette situation va perdurer maintenant que les plus âgés sont donc atteints. D'autant qu'on ne sait pas quand le pic épidémique sera atteint, rappelle l'agence sanitaire. Pas avant la mi-janvier, estimé ce matin Alain Fischer.
Merci beaucoup Agathe Landais pour ces précisions. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est revenu il y a quelques minutes seulement sur ses propos emmerdés, les non-vaccinés, propos dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Eh bien, le président assume.
Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient « Mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. » De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « Nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. » Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres.
Voilà les explications d'Emmanuel Macron qui assume donc, c'était il y a quelques minutes.
Décryptage complet de ce sondage dans moins de 10 minutes. On en parlera bien évidemment de ce sondage et si les Français approuvent ou non ce que dit Emmanuel Macron à l'instant. Et on verra aussi que les Français approuvent globalement Emmanuel Macron quand il dit vouloir emmerder les non-vaccinés.
Au moins sur le fond, en tout cas, il dénonce la forme. Écoutez la réaction à présent de Marine Le Pen, qui est en déplacement à Béziers, chez Robert Ménard.
Quand on est face à une crise, quelle qu'elle soit, ce qu'il faut rechercher, c'est l'unité du pays. Je veux dire, c'est dans l'unité du pays, en réalité, qu'on résout les crises, qu'elles soient économiques, financières, environnementales ou sanitaires. Pas dans la division. Donc, avoir un pyromane, si vous voulez, qui vient faire sauter le débat, en quelque sorte, avec des propos qui sont d'une très grande violence, ne m'apparaît pas susceptible d'améliorer les solutions pour sortir de cette crise sanitaire.
Marine Le Pen au micro RTL de Valentin Boissé, la candidate du Rassemblement National qui creuse l'écart avec Éric Zemmour, si l'on en croit notre sondage BVA Orange pour RTL, à 17% d'intention de vote contre 12% pour l'ancien polémiste. Valérie Pécresse est juste derrière à 16%, Emmanuel Macron à 25%, décryptage complet, Pascal vous le disait, dans moins de 10 minutes. On en vient à présent à ce document RTL, 3 semaines avant l'ouverture du procès de Nordal Lelandais. Le père de la petite Maëlys prend la parole sur RTL, un papa inconsolable, plus de 4 ans après l'enlèvement et le meurtre de sa fille.
On est une famille heureuse, des enfants qui étaient magnifiques. Ce drame a fait exploser ma vie de famille. J'ai tout perdu, malheureusement divorcé. Quand on est dans une ambiance comme ça, où tous les bons souvenirs se transforment en tristesse, en malheur, je n'attends rien de ce meurtrier, de ce tueur d'enfants, cet assassin. Je n'attends rien de lui, mais plutôt de la justice. J'aimerais juste qu'il ne ressorte jamais de prison, qu'il n'ait plus à faire de mal à qui que ce soit. C'est quelqu'un de très dangereux.
Pour vous, il ne le dira pas la vérité sur ce qui s'est passé?
Il dira sa vérité qui à mon sens, c'est encore tout et n'importe quoi. Pour moi, il l'a enlevé pour abuser d'elle, quoi, sexuellement. Et il savait très bien ce qu'il allait faire, ce qu'il comptait faire. C'était enlever Maëlys, lui faire subir les pires sévices et puis se débarrasser de son corps. Comme si c'était un vulgaire déchet ou une ordure qu'on jetait sur le bord de la route. Je pense souvent, oui. Et ça me fait mal de savoir qu'elle a sûrement essayé d'appeler au secours, à l'aide. Et que malheureusement, on n'était pas là pour l'entendre ou pour la défendre.
Joachim de Arrojo, le père de Maëlys, au micro RTL de Serge Puyot. Dans l'affaire Jubilard, un nouvel élément à charge qui s'effondre après le podomètre et les révélations de RTL il y a 15 jours. C'est au tour de la couette, Patrick Tégéraud.
C'était même l'élément principal de l'accusation. Le procureur de la République, en juin dernier, avait expliqué qu'à l'arrivée des gendarmes, Cédric Jubilard était en train de lancer une machine avec la couette à l'intérieur, sûrement pour faire disparaître des traces. Or, la couette apparaît sur le canapé, sur les photos des gendarmes prises plus tard dans la journée. Énorme contradiction. Maître Alexandre Martin est l'un des avocats de Cédric Jubilard.
Ben, aujourd'hui, il est démontré que cette couette n'est d'aucun intérêt, puisque le 16, quand les gendarmes sont arrivés, elle était sur le canapé, comme l'avait toujours dit Cédric Jubilard. Elle a été placée dans la machine à laver bien plus tard et découverte le 17 dedans. Elle a été quand même envoyée à l'analyse. Nous n'avons pas de retour de ces analyses. On ne sait pas ce qu'est devenue cette couette. On se demande même si elle n'a pas été perdue. C'est quand même effarant. Nous avons interrogé les juges d'instruction sur ce point. Nous n'avons pas de réponse.
Mardi, pour la troisième fois, les défenseurs de Jubilard plaideront sa remise en liberté et ils ne manquent pas d'arguments pour l'obtenir.
Patrick Tézirot pour ses explications. Ce 7 janvier, bien sûr, est une date importante. Hein. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, l'effroi à Charlie Hebdo. Les frères Kouachi semaient le chaos dans les locaux du journal et abattaient 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction.
Et évidemment, on aura une pensée aujourd'hui pour toute leur famille du football. La 20e journée de Ligue 1 qui arrive et la liste des matchs reportés qui s'allonge.
Oui, reportés pour Covid, dernier rendez-vous. Date Montpellier 3, prévue dimanche. La rencontre entre Bordeaux et Marseille, en revanche, est toujours maintenue ce soir. Et ça, les Girondins ne le comprennent pas, Denis Grangeau.
Oui, d'autant qu'il n'est pas impossible, au moment où on parle, que les Girondins soient encore privés de joueurs puisque d'autres résultats de tests Covid sont attendus d'ici le début de l'après-midi. L'entraîneur bordelais, Vladimir Petkovic, a tout de même composé sa feuille de match avec les effectifs encore à sa disposition, mais rien n'a filtré. Le club semble avoir coupé toute communication depuis la prise de parole hier de son directeur sportif qui estimait que Bordeaux n'était pas respecté par les instances du foot français. Une chose est sûre, 21 joueurs bordelais ont été ou sont directement touchés par le Covid depuis 3 semaines, mais ils seront bien 11 sur le terrain tout à l'heure pour ce Bordeaux-Marseille et entre 800 et 1500 ultras devant le stade qui crieront leur mécontentement. L'OM, sur le plan du foot, n'a jamais été aussi près de l'emporter en Gironde depuis 1977, à moins que la malédiction marseillaise se perpétue encore et encore ici au Matmut Atlantique.
Denis Grangeau à Bordeaux pour RTL. Coup d'envoi de ce match, hein. Si il est toujours maintenu, ce sera 21h à suivre bien sûr sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue.
Dans une seconde, le premier sujet, premier focus, les Français d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit vouloir emmerder les non-vaccinés. D'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est le résultat de notre sondage BVA. C'est un sondage en même temps, d'une certaine manière. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ?
C'est la phrase politique de la semaine, celle en tout cas qui a sans doute été le plus commentée. Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés, il assume totalement, vous l'avez entendu dans le journal, hein, le président, c'était il y a quelques minutes. Et les Français, eux, eh bien, ils approuvent, au moins sur le fond, c'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. 58% des personnes interrogées sont d'accord sur le fond, mais 63% désapprouvent les mots employés. Alors Emmanuel Macron a-t-il réussi ou non son coup ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA, avec nous également Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Édouard, je me tourne d'abord vers vous. C'est réussi donc pour Emmanuel Macron ?
Le premier chiffre que vous semblez regarder pour savoir si c'est réussi, c'est le nombre de personnes qui nous disent en avoir entendu parler. Parce que c'est vrai que lorsqu'on utilise des mots comme cela, on cherche à avoir de l'impact. Il y a 90% des Français qui disent « je l'ai vu, je l'ai lu, j'en ai entendu parler ». Donc là,
c'est pas rien.
D'un 9 sur 10. Là, c'est réussi. Après, se dire « on va avoir de l'impact avec un mot fort », c'est vrai que c'est on a plus d'impact avec un mot, on va appeler fort, qu'avec des mots plus polissés ou plus polis. C'est vrai qu'il a réussi de ce point de vue-là. Maintenant, qu'est-ce que ça voulait dire derrière et comment les Français reçoivent ? Vous l'avez dit, on a une approbation qui est 50-50, en tout cas approbation-désapprobation, lorsqu'on parle de la phrase elle-même, pas seulement des trois mots, mais de la phrase elle-même. Les Français sont relativement partagés. C'est vrai que c'était intéressant avec RTL, on a choisi d'aller un peu plus loin et de se poser la question, est-ce que c'est le fond, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est les deux ? Et vous le disiez, c'est vrai que sur le fond, eh bien on a une approbation qui est pas loin de 60%, 58%, et pour Emmanuel Macron, on va dire si on fait une analyse un peu par le biais politique, on va se dire, il peut être satisfait de voir que les sympathisants du PS, d'Europe Écologie Les Verts et des Républicains sont plutôt effectivement de ce côté-là, même un peu plus que la moyenne.
Mais c'est maintenant le mot approbation qui pose problème. Est-ce qu'ils approuvent la phrase qu'il a dite ou est-ce qu'ils approuvent que ce soit lui qui dit cette phrase ?
Alors, c'est une très bonne analyse. Je vois que vous faites des progrès chaque semaine en termes d'analyse politique et de capacité à regarder.
Non, mais jeunesse sportive, je me donne des cours particuliers le soir.
Non, mais vous avez absolument raison. C'est vrai qu'on ne peut pas défaire ce qui est émis de l'émetteur. Donc, naturellement, vous avez un certain nombre de populations, et on le voit très bien avec les sympathisants de La République En Marche, ils sont derrière, que ce soit sur le fond et la forme. Mais justement, lorsqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, dont tout le monde sait, pense, ou suppute qu'il sera candidat, et qu'il y a une Valérie Pécresse qui est aussi candidate aujourd'hui, lorsque les sympathisants républicains, les républicains qui sont a priori plus, ils devraient être plus tentés par Valérie Pécresse, sont dans l'approbation majoritaire, ça veut dire qu'au-delà de qui parle, ils entendent ce qui a été dit. Donc là, on peut se dire qu'au départ, vous êtes un sympathisant la France Insoumise ou Rassemblement National. Là, pour le coup, l'émetteur a un effet très fort, ce qui est émis aussi. Lorsque vous êtes sur les Républicains, eh bien, c'est un peu plus mitigé. Ces choses-là viennent un peu se partager. Donc vous avez absolument raison de poser cette question.
Benjamin, vous me disiez tout à l'heure, cette phrase, elle n'aurait pas forcément eu le même effet si elle avait été prononcée, si on avait eu la vidéo de cet échange.
Si on avait pu la passer en boucle. Voilà, c'est vrai qu'il a plutôt cette chance-là, le président de la République. Ce n'est pas le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Ça restera un fait de campagne, ça restera dans les annales politiques d'une campagne présidentielle.
Ce n'est pas la même chose que le casse-toi pauvre con, si vous me permettez.
Mais, vous avez... mais c'est pas la même chose
c'est
que le casse-toi pauvre con.
Ce n'est pas sur le même plan, il me semble.
Peut-être, mais en tous les cas, juste, pardon, sur la forme, puisqu'on en parle, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir tourner en boucle, nous, sur les radios. Ça aurait peut-être un effet autre s'il y avait cette redondance, cette répétition. On en parle, mais on ne l'entend pas. Ça change les choses quand même, je trouve. Mais deuxième chose, ils ont tremblé à l'Élysée. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas eu des sueurs froides. Les quelques heures qu'ont suivi l'interview, je vois que vous levez le sourcil, Pascal, mais je peux vous assurer.
D'ailleurs, vous avez peur que ça n'ait pas cet effet-là ?
Oui, on nous disait, attends, ça peut être considéré comme du mépris. Ce n'est pas du mépris, on a essayé de déminer. Et puis, très vite, les premières remontées ont été là et ont approuvé le mot. D'ailleurs, Gabriel Attal lui-même le reprend. Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir un contraste entre la modération d'Emmanuel Macron ces dernières semaines, cet appel à la bienveillance, cette France unie qu'il appelait de ses voeux dans ses...
Et puis il avait dit qu'il ne referait pas ce genre de phrase.
Et cette radicalité de propos, il pouvait y avoir contraste, ça pouvait être mal ressenti, et c'est finalement assumé.
Édouard. Alors,
je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut quand même se souvenir que l'on est sur du, même sur le fond, sur du 60-40, il y a donc 40%.
Oui.
Il ne faut pas négliger ces 40% français, parce que là on parle du fait majoritaire, on dit les Français approuvent. Non, on n'a pas loin de 60% des Français qui approuvent. Donc il y a quand même un certain nombre de Français qui ont été choqués et par le fond et par la forme, et qui vont... Et là, je comprends complètement ce que dit Benjamin sur le fait qu'ils ne vont pas réentendre et quelqu'un d'autre va leur dire, et ce sera un journaliste, ce sera un opposant politique, ce sera quelqu'un dans la rue, mais ce sera forcément une traduction et ce sera forcément un peu déformé. Mais il ne faut pas négliger les 40% qui sont là et qui n'approuvent pas, et ceux, encore une fois, les 50% qui n'approuvent pas globalement, et ceux qui, sur le fond ou la forme, sont malgré tout gênés.
Alors, les potentiels futurs adversaires d'Emmanuel Macron manqueront sans doute pas de lui rappeler pendant la campagne, si tant est bien sûr qu'il soit candidat. Justement, regardons avec vous si... Bon, vous faites oui, bon, ça, on a compris qu'il serait bien candidat, mais on ne sait jamais, tant qu'il n'est pas
envie,
vraiment...
Il a dit qu'il avait envie.
Attendez, il l'avait dit ici même à RTL, aux enfants.
Bien sûr, j'ai envie.
Juste avant les vacances, il avait dit oui, j'en ai très envie. Faut pas l'oublier. La suite, justement, ceux qui sont derrière pour l'instant, puisqu'Emmanuel Macron, Édouard Le Cerf, il est toujours crédité de 25% d'intention de vote. C'est un point de plus, hein, je crois, que lors du dernier sondage. En tout cas, il est toujours très en tête devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse, qui, elles, sont au coude à coude.
Exactement. Elles sont au coude à coude, 16-17%, 17-16%. C'est un petit point de plus, mais là, on est vraiment dans la marge d'erreur. On est vraiment dans ce deuxième bloc. On va dire qu'aujourd'hui, on pourrait séparer les choses en tranches ou en divisions. On a Emmanuel Macron qui reste, malgré ces éléments qui sont malgré tout... Ça peut être une lame de fond un jour, mais c'est quand même plus de l'écume qu'une lame de fond. L'intention de vote le montre. Qui est autour de 25%. Relativement stable, petite décrue depuis quelques semaines, mais encore stable. Avec une certitude de choix à son égard, parce qu'il faut regarder ces deux dimensions. Une certitude de choix à son égard... qui reste relativement forte, qui est à 72%. Ce n'est pas encore énorme. Celle chez qui la certitude de choix est la plus forcée, chez Marine Le Pen et aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Deuxième division. Et là, on a aujourd'hui, dans cette deuxième division, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Au-dessus de 15%, on va dire. Et j'allais dire maintenant, en troisième division, j'aurais tendance à dire qu'il y a un autre bloc un bloc, en tout cas un ensemble d'individus, dans lequel on peut mettre Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon.
Ça, c'est l'autre fait marquant. Éric Zemmour décroche.
Il est à 12%. Il est à 12%. Il a perdu des points, effectivement. Et surtout, je dirais
même
pour
si
lui,
tous les sondages ne donnent pas ce 12% Éric Zemmour.
Sur RTL, vous le savez.
Exactement. Non, mais c'est important de dire que le mot décrochage est ce qui s'applique à Éric Zemmour, par exemple.
Alors, moi, je vous dis, décrochage, il a été plus haut dans l'ensemble des mesures. Chez nous, il perd 2 points. Ou un point.
Et bah, un point, c'est pas un décrochage.
Non.
Mais l'écart se creuse.
Mais 65%.
Et avec Marine
seulement.
Le Pen et Valérie Pécresse, non ?
Je vais vous expliquer là où je veux en venir. Il perd un point. Ça n'est pas un décrochage. Il est à 12%. Ça n'est plus un niveau exactement comme celui qui est au-dessus de 15%. Et troisième élément, 65%, j'allais dire seulement, de ceux qui ont l'intention de voter pour lui, sont sûrs de leur choix. Ça veut dire qu'il n'a pas encore complètement réussi à sédimenter, y compris cette masse de 12%. Il serait à 80%, 90% de certitude de choix, on dirait qu'il y aurait une base plus, pardon, on devrait utiliser ce mot, sédimentée, sur laquelle d'autres pourraient venir s'accrocher. Là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à le mettre à peu près dans la même zone. On va dire que Jean-Luc Mélenchon, 10%, qui progresse encore un peu, un point, et Yannick Jadot.
Et Anne Hidalgo, alors ça c'est une surprise, quoi. Je considère que c'est une surprise, ce grand parti du Parti Socialiste qui ne décolle pas, elle est à 3,5, c'est-à-dire que c'est une catastrophe, c'est un accident industriel pour Anne Hidalgo, et on a l'impression que rien de ce qu'elle fait ne peut la sortir de cette torpeur.
C'est extrêmement compliqué, à partir du moment où la dynamique vous ne l'avez pas avec vous, c'est difficile d'avoir un effet d'entraînement, et je vais reprendre cette autre dimension dont je parlais depuis tout à l'heure, moins de la moitié des 3,5% qui disent avoir l'intention de voter pour elle sont sûrs de leur choix.
Ça veut dire que cette campagne, elle va se faire sans la gauche ?
Ça veut dire qu'il y a une forme de fragilité absolument énorme, même sur ces 3,5%.
Est-ce qu'ils vont la débrancher ? Pardonnez-moi d'être un peu trivial avec une question aussi directe, Benjamin.
Est-ce qu'on peut la débrancher, Pascal, en tous les cas ?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Pour l'instant, en fait, elle a posé ses conditions, Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle veut une primaire avec tout le monde, sinon elle ira. Elle est déterminée, vous la connaissez.
Oui, mais si elle fait 2%, il y a un moment, c'est contre-productif pour elle.
Mais pour l'instant, en tous les cas, il n'y a personne qui ressort du lot. Et c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que Christiane Taubira ne s'impose pas comme celle qui peut unir la gauche. Elle est perçue pour l'instant comme une candidature supplémentaire et pas comme une candidature d'union. Juste un dernier mot quand même. Je pense qu'avec Edouard, on peut être d'accord là-dessus. Tout peut se cristalliser très tardivement. D'ailleurs, c'est ce qu'on craint au sommet de l'État. Alors, bien sûr, on se dit c'est bien d'avoir ces bons sondages. Mais ce qu'on craint, c'est le choix dans l'isoloir dont on dit qu'il pourrait être très, très différent et que le vote est extrêmement volatile, beaucoup plus que peut-être aux précédentes élections.
Benjamin Sportouche, vous allez rester avec nous. Vous allez vous glisser sous la table.
On
va parler de la galette des rois. Donc c'est vous, pas le plus jeune ici, mais c'est vous qui allez donner les parts à droite, à gauche.
Et moi, j'ai le droit d'en manger une part.
Non, c'est les enfants, c'est après, c'est à la fin du dîner. Il est 12h52, merci monsieur Le Cerf. Merci, c'était passionnant comme à chaque fois. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
J'aime la
Ah bah,
c'est mon état normal. D'accord. Peut-être, mais non, a priori, non, je ne faisais pas la grimace.
La galette des rois, vous aimez ça?
Mais je pense que qui n'aime pas la galette des rois?
Alors, moi, je ne suis pas très frangipane, personnellement, mais enfin bon, bref, on s'en fout. Comment la choisir, cette galette? Combien faut-il... Mais non, parce qu'il y a la brioche, vous allez voir. Combien faut-il débourser pour se régaler? Quel est le bon prix, en fait? C'est le deuxième débat d'RTL Midi, avec nous Pierre Herbulot du service économie de RTL. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Dominique Oracht, qui est président de la Confédération nationale des boulangeries, pâtisserie française. Bonjour, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Avant de vous entendre tous les deux, petit détour par Marseille, si vous le voulez bien. On va retrouver Hugo Hamelin, le correspondant d'RTL sur place. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Chez vous, la galette, c'est plutôt le gâteau des rois, la fameuse brioche.
Absolument, je me trouve au fournil du Logis Neuf. Ici, c'est un petit peu la Mecque de ce gâteau des rois qui est populaire dans tout le tiers sud de la France, de Toulouse à Marseille. Alors pour vous décrire un petit peu, c'est une couronne briochée à l'essence de fleurs d'oranger. On n'a pas peur de tordre le cou aux traditions également, puisqu'on en trouve qui sont nappées au chocolat fondu ou fourrées à la chantilly. Et puis sur les plus classiques, on a des fruits confits bien sûr, et même des grains de raisin à l'eau de vie. Écoutez, c'est la spécialité de Cindy, la pâtissière.
C'est cela.
qu'on laisse mariner, voire 2-3 mois dans un seau avec de l'alcool à 90 degrés. On y rajoute du sucre dedans, ça fait un sirop bien alcoolisé. Il faut en avoir envie de manger parce que c'est vachement fort, quoi. Mais ici, les gens, ils aiment.
Ah oui, c'est fort. Ah, ça doit être fort.
Ouais, les gens aiment et ils voient même double à la fin de la galette puisqu'ici, autre particularité locale, il y a deux fèves. Il y a une vraie fève séchée, c'est pour le roi. Et puis le sujet en porcelaine que vous connaissez tous, celui-là, c'est pour la reine.
Et il coûte combien votre gâteau des rois, Hugo ?
Alors, il coûte 19 euros pour 4 personnes, c'est la classique. 34 euros pour 8 personnes. Et puis pour les célibataires, il y a aussi des baby galettes des rois à 3,50 €.
Merci beaucoup, Hugo Hemelin, direct de Marseille. 19 euros pour 4 personnes, Pierre Herbulot, c'est cher ou on est dans la moyenne ?
On est plutôt dans la moyenne. Alors, moi, j'ai épluché un petit peu tous les prix des galettes, des industriels aux galettes un peu de palace, on va dire. Ça va de, c'est le grand écart, hein, de 2,50 € hein, pour 6 personnes jusqu'à plus de 50 euros.
2,50 €?
Ah oui, alors c'est assez incroyable.
C'est un supermarché, ça ?
C'est en supermarché low cost, c'est vraiment l'entrée de gamme de la galette. Il y a plusieurs techniques hein, pour faire baisser le prix comme ça, même si là c'est quand même une vraie performance. Il y a la matière première, les amandes, 0,14% d'amandes hein, dans cette galette là, donc autant dire qu'il n'y en a presque pas, c'est que de l'arôme. Et puis il y a aussi le personnel, une galette qui coûte cher, c'est aussi de la fabriquer, il faut payer le salaire du boulanger, du pâtissier, il y a les charges, et là pour le coup en industriel tout est automatisé.
Dominique Canracte, vous nous écoutez depuis tout à l'heure, hein, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Une bonne galette, est-ce qu'elle est forcément plus chère ?
Bah écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une bonne galette, il faut des bons ingrédients. Alors par exemple, on parle de, vous voyez, 0,14% d'amandes dedans, c'est-à-dire des traces. Nous, dans une galette artisanale, c'est vrai que c'est 1 kg de farine, 800 g de beurre pour le feuilletage. Et ensuite, pour la crème d'amande, il y a un quart. C'est des un quart d'œuf, un quart de sucre, un quart de beurre, un quart d'amande. Là, qu'on est à 25% d'amande. Donc on ne parle pas du même produit. Effectivement, si vous prenez déjà de la matière première comme ça, les prix s'explosent au niveau du coût de revient.
Est-ce que certains abusent quand on entend des prix 30, 40, 50 euros la galette ? Pierre nous disait que ça pouvait aller jusqu'à 50 euros. 50
à Paris,
euros,
hein. À Paris, c'est très cher. Voilà.
Ça vous semble très cher, ça ? Trop cher, Dominique Canracte ?
Alors, c'est pas que c'est trop cher, si vous voulez. Bon, chaque artisan est responsable des prix qu'il pratique, hein, par rapport à la proportion de produits qu'il met dedans. Alors après, il y a aussi, si vous voulez, des stars qui vont prendre un packaging, un emplacement très, très cher, mettre des boîtes qui vont être des boîtages de luxe, des fèves dorées à leur fin, etc. Donc tout ceci a un coût. Et après, il y a aussi le fait de payer une marque. Mais on a tout à fait la possibilité de trouver, je dirais, des galettes entre 3 euros et 5 euros de qualité chez l'artisan. Alors 3, c'est vraiment le prix minimum où les gens gagnent très très peu d'argent dessus.
Combien de personnes ? Parce que moi j'ai le sentiment à Paris, dans les pâtisseries, la galette 6 personnes est vendue en gros 30 euros, ce que je trouve extrêmement cher. Mais ça, c'est dans Paris et dans les arrondissements, à Neuilly par exemple, qui est plutôt une ville chic de la banlieue parisienne. 30 euros, c'est pas donné.
Donc tout à fait, 30 euros, donc on est dans des moyennes. Moi je parle par personne, hein, que ça soit bien clair. Donc je dis entre 3-5 euros par personne, c'est à peu près ce qu'on trouve dans le côté artisanal. Par personne, hein, on est bien d'accord. Donc là, on est sur cette galette à Neuilly. Si vous voulez, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les loyers sont parfois pas les mêmes à Paris en province. Les salaires non plus. Après, les matières premières, ça dépend aussi. Si vous prenez du beurre d'appellation ou du beurre, je dirais un peu plus, pas mauvais, mais peut-être plus ordinaire. Donc c'est pour ça que chaque, je veux dire, même quelquefois, un artisan, c'est pas exactement combien lui coûte précisément sa galette. Pierre, puisque vous avez vu, en ce moment, là, le beurre a pris 45%, les amandes 12%, le sucre 10%, les œufs, le lait 20%, plus l'énergie
nous
aussi
sommes
qui
d'accord,
a, qui
tout
a flambé.
Augmente. Pierre Herbulot.
Alors, moi, justement, j'ai fait une galette des rois hier,
c'est bon,
j'ai fait ma pâte feuilletée, j'ai acheté des amandes, alors pour le coup, des amandes qui sont bio, j'ai acheté des œufs frais, j'ai acheté du bon beurre, et la galette 6 personnes, alors vraiment en coût de production, moi, je n'ai pas.
Vous n'êtes pas payé
pour
la
galette. Je ne me suis pas
galette.
Payé.
Déjà, vous êtes doué pour faire ça.
6,50 €. Voilà.
6,50 € pour 6 personnes. Une galette de 6 personnes.
Pour 6 personnes. Parce que c'est vrai que j'entendais tout à l'heure 800 grammes ou 1 kg de beurre. 1 kg de beurre, on fait quand même pas mal de galettes avec ça. C'est-à-dire que c'est pas 1 kg de beurre par galette, même s'il y a 2 disques de pâte feuilletée, on fait au moins, à mon avis, 5 galettes avec 1 kg de beurre.
Dernière chose.
Alors, excusez-moi, mais on arrive avec. En fait, vous, en étant particulier, sans perte, sans choses, sans feuilles, etc., vous arrivez pratiquement à 20% de matière première.
Dans l'industriel congelé, il y a une, je ne citerai pas la marque, mais il y a une galette qui est proposée à 7 euros. qu'on décongèle et qui est surprenante, puisque je l'ai goûtée, qui est même plutôt excellente. Qu'en pensez-vous?
C'est pour qui la question?
C'est pour vous.
C'est pour vous, monsieur.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, je pense que déjà, vous l'avez goûtée, elle était tiède, elle sortait. Alors moi, je ne sais pas comment est cette galette et ce qu'elle vaut. Je pense qu'il y a à tous les prix des... Elle a dû être faite, en tout cas, pas artisanale, puisque vous savez qu'il faut trois fois plus de main-d'œuvre dans l'artisanal pour avoir ce produit. Donc, il est possible qu'il y ait des galettes qui soient tout à fait correctes à manger. Alors après, est-ce qu'on peut comparer avec un produit artisanal qui donne aussi le fait du beurre breton, du beurre normand, des amandes différentes. Je crois que c'est deux produits différents, mais tout à fait, il peut y avoir des galettes qui sont intéressantes au niveau coût d'achat, mais voilà, ça vaut peut-être pas la qualité artisanale, pardon. Il faut pas mal ou très bien.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, monsieur Enracte. Et je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie française. C'est un bon moment, généralement, que cette galette des rois. J'ai l'impression que la frangipane n'était pas aussi répandue dans les années 70. J'ai l'impression qu'on était surtout dans de la brioche à l'époque.
Mais ça dépend des régions, non?
C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression
monsieur
que...
Monsieur Enracte, non?
Oui, tout à fait. Les régions sont donc, c'est vrai que le sud est très brioche avec fleur d'oranger, l'ouest avec les fruits confits. Donc, mais c'est vrai qu'on trouve aussi cette brioche un peu partout dans les boulangeries quand même parisiennes. Mais c'est beaucoup feuilleté aux amandes quand même qui est en majorité en France.
Ben merci une nouvelle fois, il est 13h02.
Merci
monsieur Herbulot. Merci. On peut venir chez vous dîner finalement si vous savez faire.
On a mangé ce matin.
Et vous savez que Cyril Lignac a approuvé sa galette en disant qu'elle était super bonne.
Vous êtes formidable, vous faites de la pâtisserie depuis toujours?
Depuis quelques années, oui.
Mais parce que c'est très dur, paraît-il, la pâtisserie. Ça demande une grande rigueur.
Absolument, mais ça, ça prend.
Écoutez, on va essayer de venir chez vous ce soir. 13h02, la pause, le rappel des titres, les auditeurs. RTL Midi.